Des Amours malades, chapitre 28. Nous avions décidé de fêter le premier anniversaire de Quentin et les résultats du bac le même jour. Nous aurions organisé un buffet où étaient invités tant les amis de Laurent que les nôtres. Pour l'occasion, Léa m'avait ordonné de tout nettoyer à fond et de faire les carreaux. J'avais eu une semaine très chargée et j'étais particulièrement fatiguée. Toutefois, je désirais que Quentin et Laurent passent une soirée mémorable et j'obéis donc lustrant, briquant et asticant tout le jour. J'en terminais enfin avec les dernières vitres, celles du salon, quand Léa vint inspecter mon travail. Je ne sais ce qu'elle vit exactement, une auréole peut-être. Le fait est qu'elle commença à donner de violents coups sur l'escabeau où j'étais juchée. Ces coups, mêlés à la fatigue et à la surprise, me firent perdre l'équilibre. Le bruit de ma hanche sur le parquet et la douleur qui suivit ne me laissèrent aucun doute sur le diagnostic. Fracture du fémur. Léa dut appeler une ambulance cette fois, car j'étais dans l'impossibilité totale de bouger. Je me trouvais encore dans un box des urgences quand Laurent arriva à l'hôpital. J'entendis ses cris rageurs avant de le voir. Quand il pénétra dans le box, il était dans un état d'excitation que je ne lui avais jamais vu. Il passa Quentin d'un bras à l'autre, crachant des insultes, à voix basse cette fois. Certaines habitudes ne meurent jamais, la discrétion avant tout. « C'est elle, n'est-ce pas? C'est elle qui t'a fait tomber. Elle m'a dit que c'était un accident, mais je n'y crois pas. Cette putain de tuera, tu m'entends? Elle te tuera, elle y arrivera. Un jour ou l'autre, elle y arrivera. Mais je l'écraserai avant cette vermine. Laurent, ça suffit, s'il te plaît, priai-je. » Accablé tant par les mots de mon fils que par la douleur qui me labourait le flanc et la jambe. « Non, ça ne suffit pas. Je vais la dénoncer. Tu vas divorcer. On n'a pas besoin d'elle. Je travaillerai dans une autre bijouterie. J'irai vider les poubelles, goudronner les routes, mais je ne veux plus avoir affaire à elle. Je ne veux plus que tu aies affaire à elle. Tu as compris? Elle est complètement folle, folle à lier. Ils doivent l'enfermer, l'empêcher de nuire. Je ne comprends pas que tu sois encore avec elle après tout ce qu'elle t'a fait subir. Je ne comprends vraiment pas. Ou tu es aussi fou qu'elle, ou tu es d'une lâcheté. » Laurent. « Je crois que cela peut suffire, effectivement, » murmura Philippe Arès, mon ami pédiatre. Je sus plus tard que Laurent l'avait appelé du taxi qu'il avait pris pour me rejoindre. Philippe s'était précipité à mon chevet. Il prit Quentin des bras de Laurent et m'indiqua du montre. « Assieds-toi près de ton père et reste un peu tranquille. Il souffre énormément, il a besoin de calme avant d'être opéré. »« Opéré, mais... » Je viens de parler avec l'orthopédiste. C'est une fracture absurde. Il y a un éclat qui risque de lacérer la peau si on applique la traction. L'intervention immédiate est l'unique solution. » « Oh, papa! Mais dis-lui, Philippe, dis-le-lui, toi, qu'il doit la quitter, cette... » Laurent a raison, Alexandre. Tu es à bout, physiquement, psychologiquement. Tu dois accepter d'abandonner. Tu n'as rien pu faire pour l'aider. Dieu sait si tu as essayé, mais tout est inutile. Ce n'est pas le moment pour prendre une décision. Mais tu ne dois pas tarder. Un jour ou l'autre, ça finira mal. Laurent ne risque plus rien à présent. Il peut venir vivre avec toi, s'il le désire, et Quentin aussi. Il faut penser à toi, Alexandre, je t'en conjure. « Tu as entendu, papa ?»« Oui, Laurent, j'ai entendu. J'y penserai, je te le promets. »« Non, tu ne dois pas y penser, tu dois le faire !»« Il le fera, Laurent, il le fera. Laisse-le à présent. Je veux rester avec toi, papa. Toi et Quentin êtes les invités d'honneur d'une fête, il me semble. »« Mais je m'en fous de cette maudite fête !»« Écoute, mon chéri, j'ai nettoyé toute la journée pour que tout soit parfait. Ne me dis pas à présent que j'ai fait tout cela pour rien. »« S'il n'y avait pas eu la fête, rien ne serait arrivé. » L'amour est leur sentiment de culpabilité. Je ne sais pas lequel est le pire, le père ou le fils. Laurent, ta mère n'a pas besoin d'une raison particulière pour faire du mal à ton père, tu le sais parfaitement. Alors va à cette fête, prends des photos de Quentin en train de souffler sa bougie, puis tu les amèneras à ton père. De toute façon, tu m'y as invité à cet anniversaire, donc je t'aurai à l'œil. Pas vrai, Quentin? Ton pédiatre préféré empêchera qu'on te le gâche ton premier anniversaire. En route! Et toi, tiens bon, me lança Philippe en me serrant la main. Viens, Laurent. Laurent se pencha vers moi et m'embrassa, puis « Je viendrai après, papa. Pense à ce qu'on t'a dit. Je t'en supplie. Bon courage. » J'acquiesçai. Laurent revint vers minuit avec Quentin, naturellement. Il le cala dans le fauteuil, puis tira une chaise près de mon lit et me tint la main jusqu'au matin. Malgré les restes de l'anesthésie, j'entendais ses mots de réconfort et le voir près de moi, du fond de mon brouillard artificiel, à chaque fois que j'ouvrais les yeux, fut pour moi le meilleur des antalgies. Pendant ma convalescence, Laurent ne me reparla pas de divorce, mais il ne me laissa jamais seul avec Léa. Il ne sortait plus ou m'emmenait avec lui quand il portait Quentin en promenade. Puis, la veille de mon retour à l'hôpital, il me dit seulement « Papa, souviens-toi de ta promesse. » Je n'avais pas cessé de penser au problème du divorce durant mon séjour forcé à la maison. Léa avait repris du personnel, car j'étais naturellement dans l'impossibilité de faire un effort quelconque, et elle m'en voulait de devoir accueillir des étrangers. Devant eux, Elle devait se contrôler et cela apparemment lui coûtait. Je ne pense pas que me torturer lui manquât en tant que passe-temps favori, mais comme soupape à ses angoisses. Je la voyais inquiète, anxieuse. Elle n'avait plus un tiers situation en main et cela la tourmentait beaucoup. Elle me faisait peine à certains moments, car elle n'était plus la Léa forte et fière, mais une femme de 40 ans en proie à ses démons. J'aurais dû la quitter depuis longtemps, et je le savais. Mais au début de notre mariage, je l'aimais trop, et je m'étais souvent sentie coupable de ses réactions. Je ne l'avais pas toujours comprise. La naissance de Laurent, enfant qu'elle n'avait pas désiré, avait provoqué chez elle une crise dont la responsabilité m'incombait en partie. Puis, l'habitude aidant, j'avais appris à gérer la situation. J'essayais le plus possible d'éviter les crises, et quand elles survenaient, faisais mon possible pour qu'elles durent peu, acceptant avec soulagement les réconciliations. Léa savait être charmante, aimante et aux petits soins pour moi quand tout allait bien. Et cette Léa, je l'aimais encore. Dans les mauvais moments, je me disais que la quitter m'aurait ôté Laurent, et cela était inimaginable. Quand Laurent aurait enfin pu décider avec qui rester en cas de divorce, il vivait une période tellement embrouillée que les rares fois où j'imaginais pouvoir quitter Léa, je me disais que cela l'aurait déstabilisé plus encore. Puis était arrivé Quentin, et de nouveau les choses s'étaient compliquées. Je dois de toute façon reconnaître que je ne songeais que très rarement à quitter ma femme. L'accident de l'escabeau m'avait fait comprendre à quel point Laurent était ébranlé et à quel point j'étais moi-même très éprouvée. Mes analyses étaient mauvaises, j'étais dénutrie, mon ulcère ne cessait de s'aggraver, je dormais peu et mal, je souffrais de cauchemars et de crises d'angoisse, mon équilibre mental était précaire, même si je refusais de l'avouer. J'aspirais à la paix. Je parlais avec Léa. Elle n'eut aucune réaction. Elle m'écouta sans rien dire, les yeux dilatés par la surprise et par la peur. Du moins eus-je cette impression. Puis elle monta dans notre chambre et se mit au lit sans un mot. Quand je me couchai à mon tour, elle prit ma main et ne la lâcha plus. Je retournai donc à mon travail le lendemain, sans avoir su ce que Léa pensait du divorce. J'étais bien décidée cette fois à me rendre chez mon avocat pour faire préparer tous les documents nécessaires à la séparation. À présent que j'avais pris une décision, je ne voulais pas que les choses traînent. Je venais de terminer ma visite quand on m'appela au téléphone. Un infirmier du SAMU, nouveau sans doute, me demandait si j'étais bien le mari de Madame Léa Mouret-Lambert. Ma femme venait d'être accueillie d'urgence pour ingestion massive de tranquillisants variés et d'alcool. Elle avait toutefois prévenu immédiatement les pompiers, regrettant sans doute son geste, et les secours avaient évité le pire. Elle avait subi un lavage gastrique et était hors de danger. Léa était à présent terriblement agitée et ne cessait de me réclamer. Je me rendis au SAMU en courant comme un fou, me reprochant ma décision hâtive, revoyant les yeux perdus de Léa la veille au soir et sentant encore sa main dans la mienne. Qu'avais-je fait, mon Dieu, qu'avais-je fait? Quand j'arrivai dans le box où elle était installée, Léa m'accueillit le visage dévasté par les larmes. Alexandre. Léa, ma chérie. Je la serrai dans mes bras, cachant mon visage dans ses magnifiques cheveux, aspirant son parfum. Je caressai son dos et la sentais trembler sous mes doigts. Je t'aime, Alexandre, ne me laisse pas. Sans toi, je ne suis rien. Garde-moi près de toi. Oh, mon amour, emmène-moi chez nous, je veux rester avec toi. Léa, calme-toi, je suis là. Tout va s'arranger. Moi aussi je t'aime, mon ange. Tout ira bien maintenant. Je ne te quitte pas, Léa, n'aie pas peur. L'idée que Léa eût voulu mourir par ma faute m'anéantissait. Quand elle se fut endormie, je prévins Laurent au magasin. Ta mère est aux urgences. Vous vous êtes disputée? Non, elle a tenté de se suicider, elle... Elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Je me mépris sur le ton de Laurent et le rassurai. Mais je ne m'inquiète pas, papa. Au contraire... Je suis désolée que ce soit raté. Laurent! Elle l'a fait exprès, papa. Es-tu aveugle ou quoi? Tu lui parles du divorce, elle tente le suicide. Mais je suis sûre qu'elle a appelé au secours avant même d'avoir ingurgité les dernières pastilles. Et toi, tu as couru et tu lui as promis de ne pas la quitter, hein? Tu lui as promis, papa. Ne me réponds pas, c'est inutile, tu es... Oh, peu importe, je n'en peux plus d'elle et de toi. En novembre, je serai majeure et je pourrai emmener mon fils où bon me semblera et je la laisserai t'assassiner si c'est ce que tu veux. Laurent, essaie de comprendre. Non, papa, non, je ne sais plus, c'est fini. Mon fils raccrocha sans que j'aie pu ajouter un mot. Il était décidé à partir, Léa à mourir, et moi, je ne savais plus où j'en étais, je n'en pouvais plus. Je ne fis rien. Laurent m'évitait, Léa s'était faite tendre et attentionnée. Une de ces périodes idylliques qui revenaient régulièrement, mais je ne me leurrais pas. Laurent avait sans doute raison. Ce suicide était un chantage manifeste, mais je craignais qu'un jour ou l'autre, par erreur, elle ne réussisse à se tuer. L'imaginer responsable de sa mort était au-dessus de mes forces. Je souffrais de l'indifférence que Laurent affichait à mon égard. Il avait commencé à chercher du travail dans d'autres bijouteries. Il n'avait rien dit à sa mère mais il m'avait mise au courant pour me prouver qu'il ne plaisantait pas quand il disait qu'il voulait partir. Je me sentais pris dans un piège fait de filets qui se resserrait sur moi dès que j'essayais de bouger un tant soit peu. Le filet se déchira un mois plus tard, quand à mon retour à la maison, je trouvai Léa inanimée sur le tapis du salon. Je pensai d'abord à un nouveau suicide. Elle ne respirait plus. Son visage bleuâtre faisait une tache épouvantable sur le tapis. Je me jetai à ses côtés. Je contrôlai son pouls. Il était faible, mais présent. Je me relevai aussi vivement que me le permettait ma hanche et avisai les secours. J'entrepris la respiration artificielle, mais le cœur de Léa s'arrêta de battre quelques secondes plus tard. Je me mis à masser son cœur avec fureur, alternant le bouche à bouche avec pression sur le thorax. Quand les pompiers arrivèrent, ils l'intubèrent et tentèrent de faire repartir ce cœur immobile grâce au défibrillateur. Mais tous leurs efforts furent vains. Léa était morte. L'autopsie que j'autorisai révéla la rupture d'un important anévrisme cérébral. Laurent ne fit aucun commentaire. Il n'assista pas à l'enterrement. Mes parents vinrent, mais ils ne m'adressèrent pas la parole. Ceux de Léa, qui ne savaient rien des problèmes entre leur fille et moi, pleurèrent dans mes bras. Laurent demeura avec moi, et nous commençâmes notre vie sans Léa. J'avais cru que tout aurait été plus facile. Rien ne le fut. 2 ans plus tard, Laurent me découvrit dans une mare de sang alors qu'il rentrait avec Quentin, mon revolver encore dans la main droite. Si mon fils était rentré quelques minutes plus tard, c'était un cadavre qu'il aurait eu à faire. Laurent ne revenait jamais aussitôt à la maison, et c'était bien sur cela que je comptais quand je m'étais pointé l'arme sur le cœur. Mais Quentin était malade, et Laurent avait dû aller le prendre à la crèche. Après une convalescence très longue, je décidai de quitter Paris. Je ne pouvais plus affronter mes collègues, mon travail, mes beaux-parents, ni même cet appartement qui me rappelait ma vie en lambeaux. Laurent voulait me suivre. Il irait où j'irais.